Yes! Bon matin, Nouvelle-Ville-la-Prairie, ça va bien? Oui. Est-ce que ça va bien ce matin? Oui. Let's go! Yes! Hey, première réunion, 9h, on m'a dit que vous êtes en feu, la première réunion. Ceux qui se lèvent à 9h pour l'Église sont en feu. Est-ce que c'est vrai? Oui. Yes! Ou vous n'avez pas le choix, c'est un des deux, c'est un des deux. Tellement honoré d'être ici, vraiment, vraiment content que ma femme me permet d'être ici avec 4 enfants, c'est pas facile. Je suis tellement sincèrement honoré d'être là, comme Ben l'a mentionné. On a servi au ministère des ados. Et la première fois que j'ai prêché, il y a plus de 10 ans en arrière, la première fois que j'ai prêché, c'est sous le ministère de Pasteur Ben. Et c'est la première personne qui m'a donné des feedbacks sur mon message. Donc, Pasteur Ben, oui, c'est un ami, mais pour moi, c'est un modèle. Lui et Pasteur Sophie sont incroyables. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit en face, vous êtes des modèles. Je le dis publiquement, mais super, super honoré. Merci pour ta confiance. Et j'aimerais ça qu'on mette juste une main d'appréciation pour vos pasteurs qui sont incroyables. Nouvelle Vie, est-ce qu'on peut le faire? Yes! Super, donc moi je suis en feu, je suis comme un lion en cage. La louange, j'aime ça, mais j'ai hâte d'être là. Donc maintenant que je suis là, on va plonger dans le message. Je vais juste faire un petit mot de prière, puis on va plonger dans le message. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Merci que le soleil se lève, fait tellement beau. Ça rappelle ta fidélité, ça rappelle que tu es là dans nos vies. Ça rappelle que tes compassions se renouvellent chaque matin. Et Seigneur Père, je prie que tu puisses juste nous parler. Une simple parole de toi peut changer, transformer notre vie à jamais dans le nom de Jésus. Et la Nouvelle Vie, la prière dit?
Amen.
Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, « Où puisses-tu ton eau? » Le texte aujourd'hui, Jean 4:4-19, et ça va comme suit. Comme il devait traverser la Samarie, et on parle de Jésus ici, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire. À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus. » OK, on dirait que Jésus change de sujet. « Et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Maître, répondit la femme, « Je le vois, tu es un prophète. » Et on saute au verset 25-26 qui dit ceci. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. Où puisses-tu ton eau? » C'est toute une rencontre. C'est une rencontre de fou. C'est une rencontre qui a eu une transformation pour la femme samaritaine. Et je me dis, c'est fou des fois dans la vie, il y a des gens que tu rencontres qui transforment ta vie. Moi, ma femme, ça fait 10 ans. Puis il y en a aussi, vous êtes mariés ce matin. Puis tu te dis, wow, si jamais j'avais pas rencontré ma femme, ça serait quoi ma vie? J'aurais peut-être rencontré quelqu'un d'autre, fort probablement. Mais quand même, juste l'idée de passer à côté de quelqu'un que tu connais pas. Et juste suite à une conversation, une autre conversation, et là, je me retrouve marié 10 ans plus tard, 4 enfants, ça change la vie. Donc, la personne à côté de toi peut devenir ton futur mari, future femme. Il y en a, non, elle est déjà prise, Mais l'autre personne, l'autre droite, OK? Mais une rencontre peut changer ta vie. Et avec Jésus, il y a eu une rencontre qui a changé sa vie. Jésus était fatigué du voyage. Il fait cette rencontre non conventionnelle avec cette femme. Les Juifs et les Samaritains se détestaient. suite à plusieurs événements et différentes réalités culturelles. Le premier événement, c'est le retour de l'exil des Juifs. Les Juifs ont été déportés à un certain moment donné à Babylone, en Assyrie. Ils ont eu des fréquentations, se sont mariés, il y a eu de l'assimilation dans diverses d'autres cultures. Et lorsqu'ils sont revenus, parce qu'ils étaient métissés, les Juifs étaient comme, OK, nous, on vous considère plus comme des vrais Juifs. Nous, on est des Juifs de souche. Vous, vous êtes mélangés. OK, il commence à avoir une tension entre les deux. Il y a eu la destruction et la reconstruction du temple juif. À un moment donné, le temple juif a été détruit. Et les Samaritains se sont dit, on va aider les Juifs. Tu sais, c'est la même personne, là. On vient de la même racine. On va les aider. Les Samaritains ont dit, est-ce qu'on peut vous aider? Et les Juifs ont dit, non, nous, on ne vous considère pas comme des vrais Juifs. Non seulement ça, on vous considère comme nos ennemis. Laissez faire, on va s'en charger. Encore de l'hostilité. La destruction du temple des Samaritains par un roi juif, parce qu'ils ne s'aimaient pas. Suite à la division, les Juifs et les Samaritains, ils ne s'aimaient pas. Ils avaient chacun leur temple. Ils avaient chacun leur endroit où adorer. Et à un certain moment donné dans l'histoire, il y a un roi juif qui a détruit le temple des Samaritains. Est-ce que vous comprenez qu'il y a de l'huile qui est jetée sur le feu au fur et à mesure de l'histoire? Imaginez la haine et l'hostilité entre les deux peuples. Et il y a aussi les réalités culturelles. Jésus est un rabbin. Un rabbin ne s'adresse pas à une femme en public, encore moins lui enseigne les principes. Mais Jésus fait les deux. Non seulement ça, il était un puits. Vous savez, avant les sites de rencontre, avant les bars, avant l'église, avant le parc. OK, je ne sais pas où vous avez rencontré votre femme. Des fois, on peut entendre des histoires cocasses. Moi, la première fois que j'ai vu ma femme, c'était au métro de Longueuil. Donc, ceux qui cherchent métro Longueuil, le 4 septembre, vers 10h, il n'y a pas pire. Mais à un puits, avant les sites de rencontre, c'était à les puits. Donc, quelqu'un pouvait passer par là et dire, hey, est-ce que Jésus... Est-ce que tu veux approcher la femme samaritaine? Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'il faisait. Jésus était prêt à prendre le risque de perdre sa réputation, vivre du mépris, à être rejeté, à perdre sa licence rabbinique pour venir à la rencontre du besoin spirituel de cette femme. Amen? C'est Dieu qu'on sert. Jésus n'était pas dirigé par sa réputation, mais Jésus était dirigé par sa compassion. Ça serait le monde, on serait dans un monde complètement différent si les leaders étaient dirigés par la compassion au lieu de la réputation. Il voulait enseigner à cette femme que non seulement le corps a soif, mais l'âme a soif. Et cette soif spirituelle peut être étanchée par l'eau vive. L'eau vive qui est une analogie à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui peut t'hydrater, qui peut te faire du bien, qui peut te ressourcer, qui peut faire en sorte que tu es zélé ce matin. C'est juste l'Esprit de Dieu qui peut le faire. Mais j'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que tu es conscient que ton âme a soif? Tu ne peux pas puiser au bon endroit si tu ne réalises pas que ton âme a soif. Il y a plusieurs années en arrière, okay, j'ai fait le demi-marathon de Montréal, okay, le 21 km. Je me suis dit, je vais attaquer le 21 km parce que j'ai fait 10 km un peu sur un coup de tête et j'avais eu une bonne performance. J'avais mal partout, mais j'avais eu une belle performance. Et là, je me suis dit, je vais m'attaquer au 21 km. Donc là, je commence, je m'étais un peu entraîné, j'y vais, je commence à dépasser du monde dans mon rang, je me sens bien, tout va bien. Je suis rendu au 10e kilomètre, je dis, oh, il reste 11 kilomètres, pas de problème. Et au bout du 16e kilomètre, je frappe un mur. Pas un vrai mur, OK? J'ai déjà raconté l'histoire, les gens disent, tu frappes un mur de béton, c'est pas un vrai mur, OK? C'est le mur de fatigue. Quand tu cours, et là, je me mets à ralentir, mais drastiquement. Je courais, et là, tout d'un coup, je commence à marcher comme ça. Et là, les gens que j'ai dépassés me dépassent. Et là, ils me regardent un peu d'un air concerné. Puis là, je suis comme, quoi, ça va bien, je continue. Et là, je ralentis. Je me dis, ça va bien. Et là, les gens me dépassent. Et là, je vois la ligne d'arrivée, environ à 500 mètres. Je la vois, la ligne d'arrivée. Et tout d'un coup, je commence à voir des étoiles et je m'effondre. Donc, la personne que tu as entendue sur TVA qui s'est éventrée, c'était moi. Non, c'était pas. Je me suis effondré, j'ai perdu connaissance, littéralement. Le pire dans tout ça, c'est que quand je me suis réveillé, je pensais avoir franchi la ligne d'arrivée. Donc là, il y avait trois filles qui étaient là, trois coureuses. Je ne sais pas si elles sont arrêtées ou si c'était les côtés. C'est là, est-ce que vous voulez de la nourriture, est-ce que vous voulez de l'eau? Ils voulaient m'aider. Et là, moi, j'étais là, oh, je suis juste content d'avoir fini. Mais si vous n'avez pas fini, quoi? T'es pas sérieux? Ils m'ont mis dans une brouette. Non, c'est vrai. J'étais même pas capable de me lever. Ils m'ont mis dans une brouette. Ils m'ont ramené jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis resté 2 heures à l'infirmerie. je souffrais de déshydratation sévère. OK? Mais combien d'entre nous continuent de courir même lorsque notre âme a soif? Combien d'entre nous? Combien d'entre nous? Lorsque tu perds du zèle, mais tu ne le réalises pas. Tu perds de la passion, mais tu ne le réalises pas. Tu perds le goût de prier, mais tu ne le réalises pas. Tu continues à avancer. Tu as le sourire. Tu es comme ça, ouais. Les gens te regardent d'un air concerné. Les gens proches de toi qui te connaissent savent qu'il y a quelque chose qui a perdu. Ils essaient d'intervenir dans ta vie, mais tu continues de leur sourire. Tu continues de venir à l'église. Tu continues de faire ce qu'un bon chrétien fait, mais ton âme a soif et tu continues de courir. Hélène Calder, a écrit un article sur la sécheresse spirituelle et elle dit ceci. Il est normal de traverser des moments de sécheresse spirituelle, mais le problème survient lorsqu'on ne le réalise pas. Tu ne sais pas que tu as soif. Lorsqu'on ne le réalise pas notre besoin de Dieu, donc tu sais que tu as soif, mais tu ne sais pas où puiser. Et lorsqu'on devient trop épuisé pour se connecter à Dieu, donc tu sais que tu as soif. Tu sais que tu dois puiser en Dieu, mais il y a quelque chose en toi, il y a une léthargie qui fait en sorte que tu ne puises pas en Dieu. Serait-il possible que ton âme a soif en ce moment même et que tu ne l'as pas remarqué? Moi, je vais vous aider à identifier des symptômes lorsque ton âme a soif. J'aimerais vous aider à le faire aujourd'hui avec 7 symptômes. Premièrement, tu te sens vide. Continuellement, tu as du mal à mettre le doigt dessus, tu n'arrives pas à le verbaliser, mais c'est là. Tes pensées destructives prennent le dessus sur tes émotions. Tu es dans un état de léthargie. Tu n'arrives pas à lire ta Bible, à prier, à faire des choses pour Dieu. Tout est lourd tout le temps. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Le sentiment que Dieu est distant devient une conviction. Tu vois, c'est une conviction. Ta foi n'est plus contagieuse, mais ton pessimisme l'est. Tu ne sers plus par passion, mais par responsabilité et obligation. Tu honores tes engagements, tu fais ce qu'on dit de faire, mais la passion n'est plus là. Tu aspires au changement, mais il n'y a pas de changement parce que tu ne te connectes pas à Dieu. C'est des symptômes que ton âme a soif. Ça ne veut pas dire que tu es complètement déshydraté. Si tu as les 7 symptômes, probablement que tu es complètement déshydraté. Mais un des symptômes, c'est que ton âme a soif. Probablement, et je ne vous ferai pas lever la main ce matin, mais probablement que si je posais la question à main levée, la majorité d'entre nous, peut-être tous, on dirait, j'ai au moins un des symptômes. Amen. J'ai besoin que Dieu rafraîchisse mon âme. Vous savez, c'est à la mode les gourdeaux. Qui a une gourdeau ici? Qui se promène avec sa gourdeau? Allez-y, soyez pas gênés. Il y en a, c'est comme, j'en ai 5, j'ai honte. 5 gourdeaux, OK, 5 gourdeaux. Ma femme, je ne sais pas combien elle a eu de gourdeaux dans sa vie. Les 5 dernières années, je pense que ma femme a passé au travers de 30 gourdeaux. OK, littéralement. Ah, oh, chérie, j'ai perdu ma gourdeau. Encore? Tu sais, je veux dire, non, mais c'est juste 5 $. Non, 5 $, come on. 5. Des gourdeaux, tu sais, tu vas au travail, tu as ta gourdeau, elle est graduée. Tu es là, une gorgée. Je me rappelle quand je travaillais à l'hôpital à l'époque, avant d'être pasteur. Tu sais, puis c'est un métier de femme. J'étais technicien en médecine nucléaire, puis c'est un métier majoritairement de femmes. Puis là, ils avaient tous leurs gourdeaux, toujours des gourdeaux, toujours soucieux de l'hydratation. Mais je me dis, imaginez si on était comme ça avec Dieu. Imaginez si à chaque jour, tu dis, ah non, à midi, il faut que je prie. Ah non, à 10 h, ah Seigneur, j'ai besoin de toi. Ah Seigneur, j'ai soif de toi. Ah Seigneur, pas attendre qu'on est complètement à plat. Trop souvent, c'est moi. Ce message-là, Dieu m'a parlé à moi. Ah Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Non, j'ai un peu soif, je veux me connecter à toi. Et que lorsque les symptômes ne sont pas traités, on peut potentiellement développer des addictions. Voici ce que le cofondateur des AA, des alcooliques anonymes a dit, Carl Jung, qui est aussi psychologue. Voici ce qu'il dit. L'envie pressante de boire de l'alcool est en réalité une manifestation d'une soif spirituelle d'être comblée. La soif spirituelle de la femme samaritaine n'avait pas été traitée et elle a développé une addiction. Vous savez quoi? C'était quoi son addiction? Les hommes. Un homme, après un autre homme, après un autre homme, après un autre homme, après un autre homme. C'était les hommes. Et elle a cru que le puits des relations pouvait combler sa soif spirituelle. Il y a une multiplicité de puits. Et j'aimerais te poser la question, où est-ce que tu puises ton nom? Où est-ce que tu puises ton nom? Il y a le puits de la carrière, OK? Moi, je crois que mon emploi va me satisfaire. Je change de job, je change de ville, on retourne aux études, on essaie de monter les échelons, mais tu n'es jamais assez rempli. Il y a le puits de la spiritualité, une retraite, un séminaire. Je parle à des gens, des fois, ils disent, je vais aller dans une retraite. Ah oui, quel genre de retraite? Ah ben, une retraite bouddhiste, une retraite, tout ça. Tu sais, peu importe, je sais que ça va m'aider dans ma spiritualité. Un livre sur comment s'aider soi-même. Une pensée, un article sur canaliser les pensées positives. Et là, tu vis tu as un sentiment de bien-être, tu as un sentiment de plénitude, mais la seconde où est-ce que tu arrêtes de lire le livre, la seconde où est-ce que tu n'es plus à la retraite, tout disparaît. Parce qu'une pause de ta réalité ne veut pas nécessairement dire un changement de ton état spirituel. Le puits de l'argent, on croit que la liberté financière va te rendre heureux. Le puits du changement, on n'aime pas faire la même chose pendant 5 ans, ça change, il faut que ça bouge, une nouvelle activité, un nouveau trip. L'aventure te donne une impression de vivre pour quelque chose alors que la réalité est que tu es complètement perdu. Le puits des enfants. Hein, combien de fois j'entends les gens qui disent « j'ai eu un enfant, maintenant j'ai un sens de but ». Des fois, on le voit même sur Facebook, « j'ai un sens de but, je sais pourquoi je vis, c'est pour mon enfant ». Et des fois, quand la relation avec les enfants devient difficile, tout d'un coup, « oh, on ne sait plus, c'est où est notre père maintenant ?» Le puits des médias sociaux, combien de likes, combien d'interactions? Et le puits même de l'Église. Tu écoutes des messages, tu sers, tu es avec des chrétiens, mais tu es toujours sec. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre se faire éclabousser par l'eau vive et boire l'eau vive. Les messages sont là pour te rapprocher de Dieu, mais ne peuvent pas remplacer Dieu. Dieu merci pour sa grâce. Dieu merci pour des messages. Dieu merci pour la loi. Dieu merci, ça nous aide à quelque part, mais ça ne remplace pas ta relation personnelle avec Dieu. Jamais. Amen. OK, il y a du monde qui s'est réveillé ce matin, c'est bon. Ces puits ne sont pas fiables. Ils sont secs et limités. Seule l'eau vive peut hydrater ton âme. Seul Dieu peut hydrater ton âme. Et aujourd'hui, on va voir comment l'Esprit de Dieu peut faire ça. On va voir 4 propriétés de l'eau vive. La première, la provision de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Lorsque Jésus parle de la source d'eau vive qui jaillit sans cesse, cela symbolise l'abondance de la provision de Dieu. Il y a des milliers d'années en arrière, il y a un homme qui s'appelle Moïse, pour la plupart, peut-être vous connaissez un peu l'histoire, Moïse qui a libéré le peuple d'Égypte. Il a été voir Pharaon, il y a eu des plaies d'Égypte, il a libéré le peuple. Le plan était de traverser le désert et de se rendre en terre promise. À un moment donné, ils ont eu soif. C'est un peu normal, right? En plein désert, t'as soif, c'est un peu normal. Des milliers de personnes ont soif, ils ont besoin d'eau. Imaginez le nombre de verres d'eau. C'est quand même beaucoup, hein? C'est plus la petite chose. Imagine le nombre de verres d'eau. Et Dieu dit à Moïse, frappe le rocher, il va avoir de l'eau qui va sortir du rocher. Et effectivement, il y a eu une tonne d'eau qui est sortie du rocher. Mais voici ce que les experts disent. Les experts sur les roches. Je ne sais pas s'il y a un mot pour expliquer. C'est quoi les experts? Comment on les appelle? J'ai aucune idée. Les experts sur les roches, voici ce qu'ils disent en lien avec les experts bibliques. Les miracles n'étaient pas que l'eau soit sortie du rocher. Ce n'est pas ça le miracle. Pourquoi? Parce qu'il existe des roches sédimentaires à l'époque, et je crois encore aujourd'hui, qui étaient capables d'encapsuler l'eau une certaine quantité d'eau sur la surface. Donc, le fait que l'eau sorte du rocher, ce n'est pas un miracle. Ça arrive. C'est le miracle était la quantité d'eau qui est sortie du rocher. C'est ça, le miracle. C'est de dire, wow, OK, il y a eu 1 litre d'eau, OK, mais là, il y a des tonnes d'eau. C'est ça, le miracle. Et Paul relate de la même histoire dans le Nouveau Testament en disant, le rocher auquel vous avez bu dans le désert, c'est Jésus. Il n'est pas en train de dire que la roche, c'est Jésus. Il est en train de dire que non seulement vous avez vécu une expérience physique, mais vous avez vécu une expérience spirituelle. Alors que l'eau est un symbole pour signifier qui est Jésus. Alors que vous avez vu l'abondance de l'eau. Alors que vous vous inquiétiez. Vous étiez dans le désert. Oh, est-ce qu'on va boire? J'ai soif. Est-ce qu'on va boire? J'ai soif. Alors que vous inquiétiez. Dans l'abondance de l'eau, vous avez su maintenant que Dieu pourvoit. Et par l'abondance de l'eau, par la caractéristique de l'esprit, maintenant, c'est la provision de Dieu qui noie tes soucis. Tu n'es pas noyé dans tes soucis. C'est la provision de Dieu qui noie tes soucis. Et ça hydrate ton âme. Parce que tu n'es pas déshydraté par tout ce qui se passe. Vous savez, j'aimerais poser une question. Comment gères-tu tes soucis? Il y en a, vous êtes devenus des experts à gérer les soucis. J'imagine, puis je le dis pas méchamment, là, mais imaginez un clown, je ne vous traite pas de clown, je tiens à le dire 2 fois pour être sûr. Imaginez un clown, okay, qui jongle, okay, il y a un vase d'eau bouillante sur la tête, une roue sur une corde. Et là, vous jonglez les soucis, vous êtes rendu bon. Vous êtes comme, oh man, souci des enfants, souci de l'inflation. Le gars, souci de l'avenir de ton couple, souci de ton épanouissement personnel. Puis là, t'es comme, oh, je suis bon, je suis bon, je suis bon, je suis bon. Mais Veux pas, un jour, tu finis par échapper les trucs. Tu peux pas gérer ta vie comme ça. Imagine le stress, l'inquiétude, l'anxiété. Tôt ou tard, tu vas finir par échapper quelque chose. Tu n'as pas à gérer tes soucis de la sorte. C'est la provision de Dieu, de t'attendre à la provision de Dieu, de dire, OK, Seigneur, je m'attends à toi. Fais en sorte que ça hydrate ton âme. Amen. J'aimerais t'encourager ce matin. Il y a toujours plus de solutions que de problèmes avec Dieu. Amen. Toujours plus de sérénité que de soucis. Amen. Plus d'espoir que des moments down. Plus de joie que tes peines. La provision de Dieu hydrate ton âme. Amen. La deuxième caractéristique de l'Esprit, c'est la restauration de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit à la Samaritaine qu'elle n'aura plus soif. Elle est passée d'un état de déshydratation à une source d'eau. Pensez-y. Ça prend du temps. Elle passe d'un état de besoin à une personne ressource. C'est fou, là. Voici un exemple. Elle passe d'un état de désespoir à porteur d'espoir. C'est pas juste, elle n'est pas juste rassurée. Jésus n'a pas juste... Elle n'a pas juste rassurée. Jésus n'a pas fait en sorte qu'elle soit confiante. Non, elle est désespérée, elle est porteur d'espoir. Maintenant, tu vas être une source d'eau vive. Tu ne vas pas juste être désaltérée, tu vas être une source d'eau vive. C'est comme si, par exemple, un orphelin qui vit dans la misère, c'est difficile, devient le président de Vision Mondiale, alors qu'il a été bénéficiaire à un moment des services. Maintenant, c'est lui que Dieu utilise pour être une personne ressource pour d'autres. C'est ça que Dieu est capable de faire. Sa restauration est tellement profonde qu'il fait en sorte qu'alors qu'on était dans un état de besoin, nous devenons une personne ressource. C'est la restauration de Dieu. On va faire un petit pas en arrière. C'est midi. La femme samaritaine vient à midi. Le soleil est chaud. Personne ne vient au puits à ce moment-là. Imaginez la honte de son style de vie. Elle veut pas être exposée. Elle vit un désespoir profond. Elle va d'un homme à un autre homme. Mais elle décide de mettre sa foi en Jésus. Et j'aimerais ça qu'on lit quelques versets. Je ne les ai pas mis au début. Je ne sais pas s'ils vont apparaître à l'écran, mais juste écoutez ce qui se passe lorsqu'on met à croire en Jésus. Okay? Quand on dit source d'eau vive, écoutez ce qui se passe en elle. C'est Jean 4, 28 à 30. Alors la femme laissa là sa cruche. Se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et si c'était le Messie, les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Jean 4, verset 39. Il eut, dans cette bourgade, beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Est-ce que vous voyez la différence? Je suis venu à midi. Je ne veux pas être vu. J'ai un style de vie que je sais qui n'est pas respecté. En plus, c'est un juif qui vient me parler. Je veux juste être tout seul dans ma bulle. Et à la fin, lorsqu'elle croit en Jésus, elle va vers d'autres et dit, venez voir celui qui m'a touché, celui qui m'a exposé un peu ma vie, celui qui... Il y a quelque chose qui se passe en moi. Maintenant, elle n'a plus peur d'avoir honte. Elle ne se cache plus. Il y a une restauration qui a pris place en elle, qui est incroyable. Vous savez, je connais quelqu'un. Bien, à force d'être pasteur, on écoute le témoignage et l'histoire de plusieurs personnes. Et il y a une personne qui m'a vraiment touché parce qu'elle a un passé criminel, cette personne-là. Elle me dit, Josias, elle dit, moi, tu sais, j'ai fait de la séquestration, j'ai fait du temps en prison. Il y a des histoires qui m'ont dit que je ne pourrais pas raconter comme ça en public, mais il y a eu des bagarres, provocations envers les policiers, toutes sortes de choses. Mais cette personne-là a rencontré le Seigneur. C'est une des personnes que je connais, qui a le plus de compassion. C'est fou. Il aime ça aider, il aime ça auprès des pauvres. C'est fou. Plus de compassion. C'est juste pour vous dire à quel point Dieu peut restaurer quelqu'un. Il faut le croire pour nous. Il faut le croire pour quelqu'un d'autre. Dieu peut restaurer quelqu'un. Mais il me dit toujours, prie pour moi, pasteur. Parce que je viens d'un milieu rough. Des fois, j'ai le goût de... Tu comprends? Prie pour moi, que je sois guidé par l'Esprit. Mais Dieu l'a restauré. Vous comprenez? La lutte est là, la réalité est là, mais Dieu l'a restauré. Lorsque tu es encouragé, tu peux encourager quelqu'un d'autre. Lorsque tu es apaisé, tu peux apaiser par l'Esprit quelqu'un d'autre. Lorsque tu es consolé, tu peux consoler quelqu'un d'autre. Lorsque tu es rempli de foi, tu peux susciter la foi chez quelqu'un d'autre. Une question a été posée au pasteur D.L. Moody. qui dit ceci. « Pourquoi mettez-vous tellement d'emphase sur l'Esprit de Dieu? » Imaginez une entrevue, puis le pasteur est là, « L'Esprit. Pourquoi mettez-vous d'emphase tellement sur l'Esprit de Dieu? » Il dit, voici ce qu'il a dit. « Parce que je fuis. » OK? « Parce que je fuis. » Comme une bouteille d'eau qui a plein de trous. « Parce que je fuis. » Je fuis constamment. J'ai besoin que Dieu me remplisse constamment. Et vous savez, une bouteille d'eau, lorsqu'elle a plein de trous, bon, l'eau sort de tous les côtés. Mais si vous mettez la bouteille d'eau en dessous d'un robinet à fort débit, même lorsque tu perds de l'eau, elle ne se vide pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Même lorsque tu perds de l'eau, elle ne se vide pas. C'est ça que l'Esprit de Dieu peut faire. Même dans le processus de restauration de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que Dieu fait ça, puis complètement restauré. Puis il y a une restauration aussi dans l'éternité. Je veux dire, on va être délivré de notre corps. Il y a tout un processus. Mais même dans le processus de restauration de Dieu, dans sa grâce, Dieu nous inonde tellement de son esprit qu'on est porteur d'espoir. Il dit, mais quand les gens regardent dans la vie, ils disent, hey, il y a encore des choses dans ta vie. Oui, certainement, il y a encore des choses dans sa vie. Dans ma vie. Oui, certainement, Dieu travaille encore dans ma vie, mais au travers de tout ça, par sa grâce, je suis capable de te communiquer un message qui touche ton cœur. Amen. La troisième propriété de l'esprit, c'est la fertilité de l'esprit. La Samaritaine traversait un désert spirituel, mais l'eau vive lui a fait germer la foi. L'eau vive est capable de faire germer la foi en toi, peu importe la saison dans laquelle tu te retrouves. Est-ce que ton état spirituel est déterminé par la saison que tu traverses ou par ta connexion à l'Esprit de Dieu? Quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit tous les gens qui traversaient la persécution, vous savez, des fois, on dit, « Ah non, mais tu sais, ma vie spirituelle est comme ça parce que je traverse une épreuve, tout ça. » Puis c'est normal, je veux dire, on est humain, hein, on traverse des épreuves, c'est difficile, il y a des hauts et bas et tout ça. Mais des fois, on donne comme trop de pouvoir à l'épreuve. Des fois, on minimise ce que Dieu est capable de faire en nous. Au travers de l'épreuve, tu peux être en feu, mon ami. Tu peux être en feu, parce que c'est ce que l'Esprit est capable de faire en toi. Lorsqu'il y a un bras de fer, la saison de ta vie et l'Esprit de Dieu gagne toujours. Toujours. Mais est-ce qu'on l'invite au challenge? Est-ce qu'on l'invite? Parce que si on ne l'invite pas, c'est sûr qu'on perd. C'est sûr qu'on perd. Peu importe l'épreuve, peu importe, c'est sûr, on a besoin de Dieu, on est dépendant de Dieu. Mais si on l'invite, par contre, c'est sûr qu'on gagne. C'est sûr, on est victorieux en Jésus. C'est sûr, ni la famine, ni l'épée, ni les anges, ni les dominations peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. C'est sûr qu'on gagne. Est-ce qu'il y a des gens qui sont convaincus qu'on est... Yes! On se le déclare ce matin, on se le rappelle ce matin. J'ai lu un article sur les serres. OK, S-E-R-R-E, sur les serres, S, pluriel. cultiver des tomates, des plantes, mais en plein désert. OK, donc c'est vraiment intéressant, les serres. Ils cultivent une atmosphère où est-ce que peu importe le contexte et la saison, tu peux avoir des tomates, tu peux avoir des plantes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et avec la présence de Dieu, c'est ça, c'est que Dieu t'inonde tellement que peu importe la saison dans laquelle tu traverses, tu vas porter du fruit. La sécurité germe même quand tu perds ton travail. Je suis comme, Seigneur, j'aurais aimé ça marcher comme ça pendant la COVID. Je veux comprendre. Je veux, pendant tout ce que, toutes les paniques, tout, ça va bien aller. Oui, mais en Jésus. En Jésus, je vais être capable d'avoir une sécurité, même si je n'ai pas ma sécurité d'emploi, même si j'ai perdu mon poste, même si je n'ai pas ma permanence. Mais en Dieu, je marche avec sécurité. Ta confiance germe même lorsque tu perds ton soutien. Tes rêves restent vivants même lorsque tu ne vois pas d'opportunité. Ton courage gère même lorsque tu dois affronter le pire. Ta foi gère même lorsque ta saison est difficile. Puis je le sais qu'en lisant cette liste, on peut tous identifier des endroits que tu es comme, « Ouf, j'ai pas eu de courage, j'ai pas eu de... » Le but, c'est pas de se condamner, c'est de se dire, « OK, c'est ça que l'Esprit de Dieu est capable de faire en moi. Je vais me connecter à l'Esprit de Dieu. Je vais me connecter à l'Esprit de Dieu. » Est-ce que tu demandes à Dieu de garder, t'aider à garder la tête haute? Où tu marches toujours à la tête basse? Est-ce que tu te laisses abattre par ta saison ou tu fais confiance à l'Esprit de Dieu? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, secoue-toi, ressaisis-toi. Dieu est là. Dieu est là, il est présent. Il veut juste faire en sorte que tu sois une source d'eau vive. Si tu te connectes à lui, il y en a, vous êtes vraiment là. Il y en a, tu dis, oh, je suis tellement déshydraté, tu n'as pas de sang. Je n'ai même pas le goût, même tu t'entends parler, puis j'aurais... Non, un pas à la fois, une prière à la fois. Ce n'est pas une question de performance spirituelle. C'est juste de dire, Seigneur, juste fais-le en moi, j'ai besoin de toi. Et petit à petit, Dieu met un petit feu en toi, puis il nourrit le feu. Tout d'un coup, tu as un peu plus de passion, puis de zèle. Puis au fur et à mesure, tu te rends compte, OK, hey, let's go, let's go. Mais encore une fois, ce n'est pas une question de performance, c'est juste une question d'être connecté à l'Esprit de Dieu. Et le quatrième point, le dernier point ce matin, la propriété de l'Esprit, c'est la vie de l'Esprit. Une source d'eau qui s'autogénère par elle-même renvoie à l'énergie créatrice de Dieu et sa capacité à donner la vie. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un prophète du nom d'Ézéchiel. Il y a une belle image par rapport à cette propriété caractéristique de l'Esprit, c'est que le prophète Ézéchiel a une vision du temple. Le temple symbolise aussi la présence de Dieu. Et il y a de l'eau qui surgit du sol du temple. Et là, il y a de l'eau qui surgit, et là, ça monte, ça monte, ça monte, et là, l'eau devient un torrent. Donc là, Ézéchiel perd pied. Oh, il commence à avoir beaucoup d'eau. Et Ézéchiel se met à nager dans l'eau. Il y en a, t'es comme, tu sais pas nager. Non, je suis pas très bon, mais je vais prendre des cours un jour. Mais Ézéchiel se met à nager dans l'eau, et l'eau sort du temple et se dirige dans la mer morte. La mer morte, c'est quoi? C'est du sel. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de vie dans la mer morte, mais lorsque l'eau passe, tout d'un coup, la mer morte, là où est-ce qu'il y a de l'eau salée, ça devient de l'eau douce. Là où est-ce qu'il n'y avait pas de poisson, il y a des poissons. Là où est-ce qu'il n'y avait pas de vie, il y a de la vie. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu veut faire en toi ce matin. C'est exactement ce que l'Esprit de Dieu veut faire en toi ce matin. Elle crée la vie et elle ressuscite ce qui était mort. Elle était comme je l'étais bouillant, je l'étais en feu, mais c'est mort. Dieu peut ressusciter ce qui était mort. C'est ce que l'Esprit de Dieu veut faire en toi ce matin. Est-ce que tu es prêt à lui montrer les zones sèches en toi? J'ai invité l'équipe à revenir. Est-ce que tu es prêt à donner les sphères mortes en toi? Ton apathie spirituelle, ta paresse, ta léthargie. Est-ce que tu es prêt à admettre que tu as besoin plus de Dieu? Là, tu es peut-être à 50 % de batterie spirituelle. Je suis correct, je suis correct. Tu sais, c'est comme moi. J'avance. Il y a une manière d'avancer que tu sais que tu vas continuer à courir. Et il y a une manière dont tu avances où est-ce que tu es en train de ralentir. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'étais en train de ralentir. Donc, même si j'avançais, j'étais comme, je ne pouvais pas me projeter. Il y a des gens, vous continuez à avancer, mais on n'est pas capable de vous projeter parce que vous êtes en train de ralentir. Et c'est ça que je prie que l'Esprit révèle. Parce que des fois, on ne le voit pas. On n'est pas conscient. Seigneur, montre-moi. Révèle-moi si je suis en train de ralentir. Est-ce que tu vas puiser ton eau en lui? Quelle est la décision que tu vas prendre ce matin? Vous savez, car la seule manière à goûter à l'eau vive est si tu lui exposes ton cœur. La noirceur de ton cœur, la laideur de ton cœur, la sécheresse de ton cœur. Vous savez, ce n'est pas parce que je suis pasteur que je n'ai pas de laideur, de noirceur. Des fois, je dis des choses à ma femme, puis je dis, par exemple, il y a une situation donnée, puis ma femme me dit, tu m'inspires. Tu sais, ça m'arrive, ma femme me dit ça. C'est souvent qu'elle me dit que je n'ai pas fait la vaisselle, mais des fois, dans les deux... On s'encourage, mais des fois, elle me dit des affaires comme ça qui me touchent profondément. D'avoir une parole de vie comme ça de ton épouse, c'est vraiment inspirant. Elle me dit, tu m'inspires dans telle situation. Et là, moi, je lui dis, ah ouais? Et c'est drôle que tu dis ça. Elle me dit, pourquoi? Elle me dit, si tu savais ce que je pensais et que j'ai lutté, ce que j'ai lutté dans cette situation-là, j'avais pas du tout le goût d'aimer la personne. J'avais pas du tout le goût de faire la bonne chose. J'ai lutté. Elle me dit, je vais te le dire, juste pour que tu aies une idée. Elle me dit, ah ouais? Je t'inspire plus ou? Mais c'est pas le titre, ça change rien. On est tous humains ici. On est tous humains ici. Seigneur, viens m'aider. Viens m'aider à prendre les ondes sèches, les ondes mortes en moi, les ondes laides en moi. Et lorsque tu exposes ton cœur, la Bible appelle ça la confession. C'est la confession. Dans le texte, il y a une confession. Peut-être qu'elle n'est pas dans la formule qu'on pense. Elle est comme implicite, mais il y a une confession. Parce que Jésus expose le cœur de la Samaritaine. Et c'est ce que Jésus fait dans notre cœur. La confession, c'est quand on l'admet. La Samaritaine, elle ne dit pas, c'est pas vrai. Ah oui, va chercher ton mari. Oui, tu as cinq maris. La Samaritaine, elle ne dit pas, c'est pas vrai. Elle ne dit pas, voyons donc, vous êtes un fou. De quoi vous vous mêlez, vous, monsieur? Elle ne dit pas, je vais bien. Je suis fort spirituellement. Elle ne va pas avec son nom. Elle dit pas, je vois pas de quoi tu parles. Moi, je vais à Nouvelle-Ville, à Prairie. Ce matin, je ne vois pas de quoi tu parles. Non. Elle dit, oui, en effet. Je me dis, comment Dieu pourrait tellement venir hydrater notre âme si on disait oui, en effet. Oui, Seigneur Jésus, j'ai des pensées qui s'éloignent en ce moment de toi. Mon âme est sec. Oui, j'aime moins ma femme en ce moment. C'est vrai? C'est vrai, Seigneur, je sers par obligation, c'est vrai. J'ai moins d'apathie, c'est vrai. J'ai déjà voulu plus prier, c'est vrai. Oui, en effet. Jésus s'attend juste à une confession. OK. Parce que quand tu fais ça, tu admets ton besoin de Dieu. Et c'est là que Dieu dit, OK, je vais inonder ton âme. Je vais venir inonder ton âme. Mais il faut une confession. Il faut une réalité. Il faut l'admettre devant Dieu. Lorsque Dieu cherche à voir ce qu'il y a dans ton cœur, ce n'est pas pour te juger, mais prendre soin de toi. C'est juste prendre soin de toi. Est-ce que tu veux vivre la provision de Dieu? Je suis sûr, à 100%. On dirait oui. La restauration de Dieu, oui. La fertilité de l'esprit, oui. La vie de l'esprit, oui. Est-ce que tu es prêt à dire oui lorsque Dieu expose ton cœur? Et c'est là que des fois, il y a du monde hésitant. Et je prie que votre oui continue à être oui, 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 oui. Et je veux même être un modèle pour mes enfants et les gens autour de moi. Verset ici. Romains 19, est-ce que tu peux? Ah non, c'est mon téléphone, s'il vous plaît. Merci. Désolé, j'ai oublié d'écrire mon verset, puis je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Est-ce qu'il est derrière? Ah ouais. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé d'une sécheresse spirituelle. Quand tu es déconnecté de Dieu, tu meurs spirituellement. C'est atroce de vivre ça. Que ce soit sur terre ou après, c'est atroce. Si tu confesses, est-ce que tu es prêt à confesser ce matin? Et la vie de Dieu, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Elle dit, c'est un cadeau, l'eau vive, c'est un cadeau. Parce que Jésus a payé la dette à la croix. Vous savez, imaginez, je t'emmène avec cette illustration. Imaginez un agent immobilier qui vous fait visiter une maison. Il vous dit, est-ce que vous aimez la maison? Il dit, oui, 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 super belle maison. Oui, 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 oui. Avez-vous de l'argent? Non, 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 pas d'argent, pas d'argent. Ah ouais? Avez-vous des dettes? Ah oui, que des dettes, que des dettes, que des dettes. Et là, l'agent immobilier est comme ça. Ah, oh, wow! Puis là, vous ne comprenez pas pourquoi il dit, wow. Il dit, la maison est à vous. C'est ça que Jésus fait. Jésus paye notre dette. Jésus rachète notre vie. Et il nous donne un cadeau. Jésus n'est pas intéressé par ta performance spirituelle. Jésus veut savoir à quel point tu es fauché. Jésus, il faut que tu montes les poches vides. Il faut que tu viennes devant le Seigneur avec tes poches vides de ton âme. Tu dis, voici Seigneur, voici ce que je n'ai pas, voici mes manquements, voici mes défauts, voici la laideur de moi, voici la noirceur de mon âme. C'est ça que Jésus veut savoir. Il dit, OK, c'est moi. Moi, je veux payer ça. Je veux racheter. Je veux prendre soin de toi. Mais est-ce qu'on est prêt à le faire ce matin? Je vais vous inviter à pencher la tête, fermer vos yeux, j'aimerais ça prier pour vous et inviter quelqu'un ce matin à vivre ce que la Samaritaine a vécu. Puis ce n'est pas une question de première fois, dixième fois, c'est n'importe qui ce matin. Tu dis, j'en ai besoin ce matin. J'ai besoin d'être ressourcé par Dieu. J'ai besoin d'être bouillant. Je veux pas juste être OK. Je veux pas juste avoir le sourire. Je veux pas être fake. Moi, c'est ma vie spirituelle qui est en jeu. C'est la mort et la vie. Je veux être une source d'eau vive comme ce que le Seigneur m'appelle à être. Et c'est, si c'est toi ce matin, alors que les têtes sont penchées et les yeux sont fermés, je t'invite à lever la main là où tu es, sans toi et Dieu. Sans toi et Dieu ce matin. N'hésite pas à le faire, c'est un geste de foi ce matin. N'hésite pas à le faire. Tu dis, j'aimerais ça. Seigneur, viens prendre la sécheresse de mon cœur. Viens prendre la laideur de mon cœur. Viens prendre la noirceur de mon cœur. Je t'invite là où tu as levé ta main. Dieu ne rate jamais une invitation. Dieu n'oublie pas une invitation. Il ne va pas dire, ah, j'ai oublié Margaret. Non, non, Dieu va répondre ce matin. Dieu va répondre ce matin. Vous pouvez baisser vos mains. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci, car tu promets que tu vas venir dans ta présence. Tu dis, alors qu'on s'approche de toi, tu t'approches de nous. Seigneur, tu dis que le Saint-Esprit sont comme des fleuves d'eau vive qui coulent en nous. Seigneur, je prie que ce soit pour la première ou la centième fois qu'aujourd'hui, que les gens puissent être convaincus. Que ton esprit, Seigneur, puisse les toucher encore et qu'ils puissent revenir à un état de bouillant. Seigneur, je prie, il y a des gens peut-être qui ont mis la serviette à côté, qui ont abandonné la serviette, qui ont jeté la serviette, qui ont dit non, c'est correct, je veux juste vivre ma vie chrétienne comme ça. Ils se sont contentés d'une vie chrétienne médiocre. Mais aujourd'hui, ils disent non, je veux vivre passionné. Parce que Seigneur, alors qu'on est une source d'eau vive, il y a tellement de monde qui ont besoin d'entendre parler de toi. Il y a tellement de monde qui sont dans le besoin. On l'a vu dans la COVID. Seigneur, je prie qu'aujourd'hui, Seigneur, quelqu'un soit convaincu, touché par ton esprit. Apprenne à te connaître. Si on confesse de la bouche, si on croit que tu es le Seigneur Jésus, alors que tu es mort et ressuscité, tu vas venir nous sauver. Viens nous sauver une fois, deux fois, cent fois encore ce matin. Et on prie dans le nom précieux de ton Fils, Jésus. Amen.